France Inter, le 7-10.
Il est 7h49, Sonia De Villers, votre invitée reçoit ce soir le prix Léopold Griffuel de la Fondation ARC.
Voilà, et en Europe, c'est le prix le plus important pour la recherche en cancérologie. Je vous présente une femme, à ce niveau en sciences, elles ne sont pas si nombreuses. Elle est franco-algérienne, oncologue et directrice de l'Institut d'immunologie et d'immunothérapie du Mount Sinai, c'est le grand hôpital de New York. Elle est membre de l'Académie nationale des sciences aux États-Unis. Bonjour Myriam Mérad.
Bonjour Sonia.
Vous parlez de la passion de votre vie, mais qu'est-ce qui vous passionne autant dans le système immunitaire ?
Donc le système immunitaire, c'est un système de cellules qui vous protège contre tous les dangers. En fait, il a permis, nous permet à l'espèce humaine d'être vivante aujourd'hui. Et donc on sait, il s'est adapté à nous protéger contre les infections, mais pas seulement, contre des espèces de problèmes métaboliques. On se dit qu'en fait, à chaque fois que vous avez n'importe laquelle des maladies, ce système immunitaire arrive pour essayer aussi de contrôler, contribuer à se défendre. Et en fait, on se rend compte qu'on a sous-utilisé ce docteur en nous, en fait, et que maintenant, il est peut-être une source de cible thérapeutique extrêmement variée et importante.
Alors, vous vivez dans un monde peuplé de macrophages et de dentitriques. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, ces macrophages et ces dentitriques ? Les macrophages d'abord.
Alors, le système immunitaire, il y a deux grandes branches. Je vais faire simple. Une branche, c'est les lymphocytes, dont les gens ont beaucoup entendu parler pour plein de raisons, pour en parler tout à l'heure. Et une autre, et ça, c'est les cellules qui tuent. Ce sont les, dans une armée, on appelle ça quoi, ceux qui tuent. Et les macrophages et les cellules dendritiques, ils sont présents dans tous nos organes, et ce sont les sentinelles qui vont toujours essayer de sentir le danger, d'alarmer ces lymphocytes et de donner des instructions aux lymphocytes pour leur dire, allez tuer cette cellule ou ne la tuez pas. Donc c'est quand même fascinant. Et donc j'ai passé ma vie. Beaucoup de temps à travailler sur ces deux cellules et faire en sorte qu'elles donnent les bonnes instructions au système immunitaire.
Alors, quel est le lien entre ces recherches en immunologie, ces défaillances du système immunitaire et puis au contraire, le moment où on peut rétablir les fonctions du système immunitaire et le traitement contre le cancer ?
Alors, en fait, le cancer, ce sont des cellules de nos organes qui deviennent un peu anormales et qui commencent à proliférer. Et le macrophage et les cellules dendritiques peuvent percevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et en général, le macrophage surtout va les éliminer. Et de temps en temps, le cancer, il arrive à se camoufler et il va utiliser en fait ses capacités de réparation. Alors le macrophage, c'est une cellule super compliquée. Je ne peux pas vous faire un cours sur le macrophage, mais non seulement il détecte, mais aussi il répare. Et donc il va réparer, et en essayant de réparer, il va faire grandir le cancer. Donc il peut l'éliminer et de temps en temps, il peut contribuer à sa croissance.
Et alors c'est passionnant parce que les chimiothérapie, on sait aujourd'hui qu'elles ne peuvent pas traiter tous les cancers, on sait aujourd'hui que la chimiothérapie c'est un traitement souvent toxique et donc l'immunothérapie qui se base sur des travaux comme les vôtres, vient en complément de la chimiothérapie ?
Oui, alors absolument. Donc il y a eu une très grande découverte en 2018, le prix Nobel de 2018, c'est Jim Allison et Tasuku Honjo qui découvrent en fait deux molécules qui permettent de réactiver ces lymphocytes, d'accord ? Et ça, ces deux molécules sont maintenant, font partie de traitements de plus de 18 cancers et ont changé en fait le pronostic de plusieurs cancers.
De plus de 18 cancers ?
18 cancers.
Parce qu'on dit souvent que c'est le cancer du poumon et c'est le cancer de la peau, le
mélanome. Pas seulement.
Pas seulement.
Donc, par exemple, le cancer de la vessie, par exemple, le cancer du rein. Donc, il y a plusieurs cancers qui utilisent cette immunothérapie. Maintenant, on essaie de combiner l'immunothérapie à la chimiothérapie. L'intérêt majeur de l'immunothérapie, c'est que ce système immunitaire, il arrive à cibler la cellule cancéreuse et sans toucher la cellule à côté qui est normale.
C'est ça. C'est que la chimiothérapie, en fait, elle tue tout.
Alors la chimiothérapie, c'est quand même beaucoup plus toxique. Et donc, on pense que cette immunothérapie va transformer, peut-être guérir. Là, on a deux molécules, 18 cancers, des résultats fabuleux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mon pari, c'est que, en fait, travaillant sur le macrophage, on va découvrir des nouvelles molécules qui est en fait une autre clé de l'immunothérapie du cancer.
Et au-delà du cancer ?
Alors, au-delà du cancer, c'est merveilleux. Ce macrophage, on pense qu'il a un rôle dans toutes les maladies, de l'athérosclérose à l'Alzheimer.
Alors, l'athérosclérose, c'est la famille des maladies inflammatoires.
Voilà. Ouais. Vous savez, on a tout le monde, on va tous développer l'athérosclérose. C'est en fait une inflammation des vaisseaux. Et cette inflammation des vaisseaux, elle est due à dépôt des cholestérols. Et en fait, on développe tout ça avec l'âge. Certains, de façon un peu plus précoce. Le macrophage, il est là. Il contribue à cette inflammation. Et on pense que, on pourrait, en utilisant et en le comprenant, utiliser ce macrophage pour diminuer l'inflammation des vaisseaux.
Et donc, les maladies neurodégénératives, type
Absolument.
Alzheimer?
Par exemple, Alzheimer. Alors, l'Alzheimer, mais il y a des data maintenant très solides qui sont dues au fait que le macrophage n'arrive plus peut-être à éliminer les cellules mortes, les neurones qui meurent pendant le vieillissement, et que si on pouvait réactiver leur capacité d'éliminer ces cellules mortes, eh ben, on pourrait agir sur l'Alzheimer.
Comment sont financés vos travaux, docteur Merad, New York?
Alors, donc, il y a deux grandes sources de financement à New York et en France. Donc, il y a une grande source qui est le National Health Institute, donc le gouvernement américain. Mais ça ne suffit pas, parce que souvent les financements gouvernementaux financent pas des projets risqués, parce qu'ils doivent financer plein de choses. Et une grande partie de mes financements viennent de fondations, comme la fondation ARC, et une autre partie viennent des donateurs, donc des philanthropes. Oui. Et ces trois sources, c'est un écosystème absolument nécessaire pour financer nos travaux.
Et la part des financements publics aux États-Unis, est-ce que, par exemple, le fait qu'on soit en régime démocrate par rapport aux
alors,
républicains,
alors, il y a toujours, en ce moment, ils viennent de diminuer. Alors, surtout quand on est en période de guerre, on est toujours atteint. Donc, nos financements de la science, c'est 3% des budgets militaires en Amérique. C'est triste. C'est important de comprendre quelle est la société qu'on veut construire, vous voyez. Donc, 3%, alors qu'il y a tellement de choses à faire, alors que on est dans un moment absolument unique de l'histoire de la médecine.
Vraiment?
Absolument. L'immunothérapie, c'est une révolution en marche. Si on avait les limitations maintenant, ce sont les financements.
C'est uniquement une question d'argent?
Absolument.
D'accord. Vous êtes une chercheuse franco-algérienne. Vous avez un parcours, donc vous êtes née en France juste avant l'indépendance de l'Algérie. Ensuite, vous êtes retournée en famille, vos parents étaient médecins en Algérie. Vous avez grandi en Algérie, étudié à la faculté de médecine d'Alger. Vous êtes revenue en France et ensuite, vous avez eu une bourse de l'ARC.
Oui.
Voilà, donc la boucle est bouclée. Oui. Pour partir faire une thèse à Stanford. Aujourd'hui, quand vous recrutez, docteur Merad, des jeunes chercheurs au Mont Sinaï, ils viennent d'où, ces jeunes chercheurs?
Alors, ils viennent de partout dans le monde. Là, j'ai 14 nationalités dans mon laboratoire. Donc, j'ai beaucoup d'élèves français, et c'est super, parce que je garde une proximité avec toute la communauté immunologique en France, mais aussi, ils viennent
d'un...
Ça
veut dire qu'il y a une fuite des cerveaux? Ça veut dire que les meilleurs chercheurs français partent à New York?
Oui, je pense que c'est possible. Alors, il y en a qui reviennent, bien sûr. J'ai plusieurs de mes anciens élèves qui ont monté leur laboratoire en France, et pas seulement à Paris, donc je suis très fière. Mais oui, il y en a qui veulent rester, parce qu'il y a quand même un optimisme pour la recherche, et aussi un respect, je pense, pour la recherche en Amérique, qui est assez frappant, et qui a envie de rester.
Alors, il y a des Français, 14 nationalités.
Alors après, j'ai des étudiants qui viennent d'Inde, du Mexique, du Brésil... J'ai une jeune fille algérienne, de Chine et de partout en Europe. Beaucoup
alors,
d'Allemagne, d'Espagne, je pense, d'Italie.
Je m'en remets au communiqué de l'ARC, Myriam Merad, parce que j'y connais pas grand-chose. Grâce à un gigantesque travail d'analyse et de synthèse de données moléculaires, l'oncologue a développé les premiers atlas épigénétiques et transcriptionnels. Voilà. Et là, je me suis dit, est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à accélérer dans vos recherches quand on parle de gigantesque travail de synthèse de données?
Oui, non, absolument. Ça va aussi accélérer. C'est pour ça que je parlais de moments historiques de la médecine. L'intelligence artificielle va maintenant permettre de vraiment comprendre, si on fait des atlas de maladies et de tissus sains, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ces tissus malades. Et donc, c'est pour ça que les limitations, c'est vraiment les financements. Il y a plein d'hypothèses qu'on a envie de tester, et pour pouvoir les tester, il faut plus d'argent.
Est-ce que vos parents seront présents ce soir à la remise du prix?
Oui, ils sont présents. Enfin, ma mère, mon père n'a pas pu venir, mes parents qui sont en fait mes mes grands role models, hein, c'est eux qui nous ont mis...
Des role models, hein, c'est à l'américaine.
Oui, à l'américaine.
Vous êtes complètement américanisés. C'est eux qui vous ont inspiré.
Oui, mais c'est des gens extraordinaires qui se sont battus pour l'université d'Algérie, l'université de médecine.
Quelle était leur discipline?
Alors, mon père est professeur de cardiologie, ma mère de toxicologie, donc pharmacien et médecin, mais ils ont énormément participé à créer, en fait, l'université de médecine et de pharmacie d'Alger. Donc, c'est des gens très engagés politiquement, très engagés dans la société, et ils m'ont donné envie d'intégrer le monde universitaire, mais aussi de faire partie d'un projet sociétal.
C'est ça, et vous avez des oncles médecins, vous avez des frères et sœurs médecins. Oui. Au moment où vous êtes nommé à l'Académie nationale de médecine aux États-Unis, la presse américaine, c'est très américain, relève que vous êtes la première femme arabe à y entrer. Et ces identités multiples, américaines, françaises, algériennes, c'est quelque chose qui compte pour vous ?
Oui. Non, ça compte beaucoup. D'abord, je ne suis pas la première femme arabe. Il y a Yasmine Belkaïd qui dirige l'Institut Pasteur. Elle fait partie de l'Académie. Elle en fait partie de l'Académie des sciences et de médecine, qui est deux académies différentes. Oui, c'est très important. C'est très important le multiculturalisme. Quand vous faites de la science et qu'il y a 14 nationalités dans votre pays... dans votre laboratoire. C'est mon pays, mon labo. Oui. C'est mon pays. On se rend compte que c'est très important de comprendre qu'il y a des talents partout, qu'il faut les cultiver, qu'en les intégrant, on devient plus fort et on le voit bien en science.
Merci beaucoup, Myriam Merad.
Oui, qui écoute France Inter à New York,
à
c'est
New
ça
York.
Hein
tous les jours.
Tous les jours, pas en direct, en podcast,
oui,
à cause du décalage horaire.